Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio.
Salut, c'est Vanessa Destiné
et Dalila Awada.
Racisme, diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler.
Mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment Fort, c'est des discussions animées par des personnes racisées.
Pour les personnes racisées? Nah, pour tout le monde. Yeah! Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Pigment Fort. Salut à nos initiés, à ceux qui nous suivent depuis le début, qui sont avec nous épisode après épisode. Vous nous écrivez, puis on l'apprécie, c'est le fun de vous savoir là, fidèles au rendez-vous comme ça. Bienvenue aussi à ceux qui en sont à leur première ou à leur deuxième écoute. On espère que vous allez aimer le contenu, puis que vous allez nous continuer de nous suivre. Et des fois aussi, ça arrive que on ramasse des gens comme ça, de passage, qui sont là juste pour un épisode, parce qu'ils aiment le titre de l'épisode, comme par exemple, comment parler d'un racisme à un blanc sans se fatiguer. Donc, chers visiteurs, vous êtes les bienvenus aussi. Donc, cette semaine, moi, je veux d'abord commencer. On va commencer en souhaitant la bienvenue aussi à Dalila Awada.
C'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses, franchement. Où est-ce que je m'en allais avec
Salut Vanessa.
Allô. Ça va bien?
Je le dis toujours sur le même ton.
Toujours, toujours. Puis c'est jamais...
tout à fait enjoué.
C'est pas toujours cute.
Tu es un peu sévère.
Je suis un peu dure ce matin.
Oui.
Mais je pense que c'est parce que je suis malade. Puis quand je suis malade, je deviens très, très irritée et très irritable aussi.
J'en prends bonne note.
Ouais, ouais. Fais attention à toi. Fais attention à ce que tu vas dire.
OK.
Ouais, c'est une journée pour me célébrer aujourd'hui. C'est pas vrai. Donc, peut-être que vous l'entendez, ceux justement qui sont habitués au podcast, qui nous suivent depuis le début, peut-être que vous reconnaissez maintenant quand je vais moins bien, parce que je pense que ça s'entend dans ma voix que je suis malade. Toi aussi, tu tousses un petit peu, tu viens de tousser, Dalila, dans ton coude. Thank God! fait que on va essayer de pas se laisser interrompre par le mucus. et causé par les rudesses de l'hiver québécois. Donc, vous savez, je reviens tranquillement comme ça au point, en fait, au but de ce podcast. Vous savez, là, tu sais, même si on fait des sujets qu'on essaie de rendre intemporels, on reste quand même, Dalila et moi, à l'affût de l'actualité. Et cette semaine, on parle d'un rapport qui a été dévoilé au cours des derniers jours. Ça concerne la violence conjugale, donc vous comprendrez que c'est pas le plus jojo des sujets, mais on espère vous garder quand même. C'est très d'actualité parce qu'il y a quelques cas qui ont été médiatisés. Vous avez vu ça passer, les crimes passionnels, les drames familiaux, toutes ces expressions qu'on utilise là, pour euphémiser la notion de meurtre, pour dédouaner le meurtrier, souvent un homme, de ses actes et faire croire aussi qu'il s'agit avant tout de crimes isolés, qui se déroulent dans la sphère privée, plutôt qu'un enjeu de société auquel on devrait tous prêter attention. Et là, c'est la fin de mon éditorial « Angry Féministe ». Pour l'instant, parce que c'est un sujet qui me met en tabarnak, la violence conjugale, et oui, j'ai sacré. Donc, la violence conjugale, qui est considérée comme un fléau dans le secteur de Montréal-Nord, un arrondissement de la métropole, Montréal-Nord qui affiche un taux de violence conjugale deux fois plus élevé que dans l'ensemble de la ville de Montréal. En chiffres, c'est plus de 7 femmes victimes de violence conjugale pour 1000 femmes, soit presque deux fois plus que dans le reste de la ville, ou est-ce que c'est 3,9? Et ça, c'est selon un rapport commandé par la table Femmes Oser au féminin, un regroupement d'organismes dédiés aux femmes. Ça a été préparé par Trajet Vie, une organisation qui se spécialise sur la question de la violence conjugale.
On s'en doutait, mais les chiffres le confirment une fois de plus. La majorité des victimes de violences conjugales sont des femmes. Donc, 8 plaintes sur 10 qui sont logées à la police proviennent de femmes, mais elles sont aussi touchées par des infractions qui sont plus graves. Puis ce qui retient aussi l'attention, c'est l'âge, puisque 63 % de ces femmes ont entre 15 et 34 ans.
Gah!
Ouais, c'est super tragique.
Ça me fait capoter.
Ouais, ces chiffres-là proviennent des données du SPVM de 2016 et 2017. On sait également que beaucoup de femmes ne portent pas plainte, donc le portrait n'est que partielle. Et pourquoi elle porte pas plainte? Il y a plusieurs raisons, comme la peur de représailles, la peur de pas être prise au sérieux, de perdre la garde des enfants ou de peur que le conjoint invoque l'aliénation parentale.
C'est justement dans la question de la garde des enfants et on en parlera plus en détail. Et pourquoi on vous parle en fait de ça dans un podcast sur la diversité? Ben parce que la clientèle qui fréquente les services des organisations qui interviennent en violence conjugale dans le quartier à Montréal-Nord est de façon générale issue de l'immigration et de la diversité culturelle. Et là, pour les auditeurs qui sont pas à Montréal, je vais vous donner quelques chiffres là, pour vous donner un portrait un peu de la population de Montréal-Nord, parce que c'est sûr que même si on n'est pas à Montréal, comme on est montréalocentriste, hein, nous autres, les médias, vous envoyez des affaires de gangs de rue, puis genre des tueries, ben pas des tueries, là, mais tu sais, des gunshots, comme on dit, là, dans Montréal-Nord, on le sait là, que c'est un quartier où il y a de la violence, on le sait qu'il y a une population immigrante, mais pour vous donner un portrait précis, ben, sur une population de 80 000 personnes à peu près, on considère qu'il y a environ 34 000 minorités visibles, personnes issues de, qu'on considère qui rentrent dans la catégorie des minorités visibles, donc 43 % de la population totale. Et parmi celles-ci, bon, c'est ça, il y a évidemment beaucoup de Noirs, 18 000 individus à peu près, ensuite suivi de près par les Arabes.
Ah oh, non, pas ceux-là.
Ah, oh, les pires! 7670 groupes des Arabes. Ensuite, on a les Latinos, mais il y a d'autres groupes aussi qui sont des groupes ethniques, mais qui sont pas nécessairement, qui font pas nécessairement partie des minorités visibles, comme les Italiens, par exemple, les Grecs, les Polonais. Donc, tu sais, toutes les autres, tu sais, sur les formulaires du gouvernement, c'est minorités non visibles. La catégorie pour ces personnes-là, ça me fait mourir de rire. Il y a aussi minorités multiples. Ça, on en discutera dans une autre émission.
Oui, c'est ça, les petites cases à cocher.
À cocher sur les formulaires du gouvernement. Et donc, c'est pour les chiffres au niveau du profil sociodémographique. Il faut savoir aussi, et là, je trouvais cette statistique-là importante, 76 % de la population de l'arrondissement se définit d'appartenance religieuse chrétienne. Donc, 61 000 citoyens sur 80 000. Okay? Et aussi, 40 % des citoyens de Montréal-Nord sont des immigrants de première génération. 40 % c'est a lot. Okay? Donc, un quartier multiculturel, vous comprendrez. Et si on prend ces données et qu'on les combine ou qu'on les associe à celles sur la violence conjugale, yish! Hein? C'est sûr que ça ouvre la porte aux conclusions hâtives du genre « Ouais, mais tu sais, les races puis la violence, là, hein? » Hein, Dalila? Ouais, c'est ça. Fait que pour tenter d'y voir un peu plus clair, on reçoit Ariane Hopkins de la table Oser au féminin. Ariane est intervenante de formation et travaille auprès des femmes depuis plus de 16 ans, donc yas!
Props!
Mm-hmm.
Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'invité.
Salut Ariane!
Salut!
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci énormément de m'avoir invitée. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager notre réalité, en fait.
Ouais, c'est ça, votre expertise aussi, parce que, hein, c'est ça. Et là, Ariane, moi, je passerai pas par quatre chemins, là. Tu sais, je vais aller direct, là, direct.
OK.
Pour la question qui dérange. La violence conjugale, là, c'est-tu culturel?
Est-ce que c'est culturel? Bonne question. Il y a du monde qui dirait oui, hein? Il y aurait du monde qui se ferait plaisir à dire oui, mais la violence conjugale, c'est universel. La violence conjugale, c'est un déséquilibre historique entre les hommes et les femmes qui aboutissent dans l'intimité à des rapports de force puis un contrôle sur l'autre. Donc, on peut pas dire que c'est culturel à ce niveau-là. Après ça, chaque culture, chaque homme ayant des comportements violents ou chaque personne ayant des comportements violents utilise différentes stratégies pour violenter. Ça peut être la violence liée, la violence spirituelle, donc utiliser ma religion pour te violenter. C'est écrit dans le Coran! Ah! Il y a du monde qui me dit, mais voyons, je l'ai pas vu encore, cette partie-là.
Ouais,
donc,
toi, Dalila, non?
Non.
Passons mon avocat.
Mais c'est ça. Mais ça, c'est, tu sais, ça partait avec la religion catholique. Il y en avait bien de ça, hein. Mais pour toutes les religions, ça ressemble à ça. C'est j'utilise différents moyens pour te violenter. Ça soit la culture, ça soit tu fais pas ça à ta famille, faut que tu écoutes. C'est ça comme ça qu'on t'a élevé, etc.
Puis de toute façon, quelle est l'utilité de faire un palmarès de qui est le pire, qui est le mieux? De la violence conjugale, c'est de la violence conjugale, peu importe de quel homme ça provient.
Exact.
Ça, c'est vraiment important parce que je trouve que on défait le débat, tu sais, on fait des dérives à force de dire ouais mais on va checker c'est qui le pire, on s'en fout, c'est qui le pire. Puis tu sais moi j'animais beaucoup de groupes d'entraide, tu sais, puis là les femmes même elle, puisque tu sais, tout le monde a des préjugés là,
ben oui.
J'en ai, tout le monde en a. Puis quand j'arrivais, j'animais pendant plusieurs années des groupes, puis les femmes disaient, ah, mais tu sais, ça doit être parce que moi, il est arabe. Puis l'autre, elle disait, ben oui, mais moi, il est chinois. Ah, moi, il est québécois. Moi, il est ici. Je disais, hey, c'est tous des frères. C'est-tu merveilleux? Ils se ressemblent tous. Ils ont tous le même profil. Ah, ils deviennent, ah, moi, hey, mon Dieu, on dirait que tu parles de mon chum. Ah, tu parles de mon mari, puis ça. Là, les femmes se rendaient compte que, ben finalement, ça tient pas, ces préjugés-là. Puis tous les préjugés, tu sais, là, on parle de culture, on parle de religion, on peut parler de dépendance aux drogues et à l'alcool. Ça désinhibe. L'alcool, les drogues, fait que ça facilite. Après ça, je peux dire que je m'en rappelle plus parce que j'étais trop sous.
Ben oui.
C'est donc merveilleux. Mais après ça, on se retrouve autour d'une table. C'est ça qui est le fun avec les groupes d'entraide pour les femmes victimes de violences conjugales, c'est que tu te rends compte que, ben toi, ils consommaient-tu? Oui. Toi, ils consommaient-tu? Non. Mais pourquoi qu'ils ont les mêmes comportements? Ben, c'est ça qui tient pas la route. T'sais. Puis c'est même, en tout cas, en partageant, dans le fond, notre vécu de femmes victimes de violences, qu'on voit justement que tout ça, ça tombe. Les femmes victimes de violences conjugales qui sont racisées ou qui viennent de la diversité. Il y a plusieurs raisons pour qu'elles sont avec nous dans les ressources d'hébergement, etc. C'est parce qu'ils vivent des réalités plus complexes et ils n'ont pas peut-être les mêmes opportunités que d'autres femmes. Donc, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup. Mais, tu sais, qui dit que cette femme-là, immigrante, son conjoint est un immigrant et non un Québécois, ça, on ne le sait pas. Et des fois, on le découvre.
Ah oui, hein? OK.
Exactement.
Puis toi, c'est ça, tu as travaillé beaucoup à Montréal-Nord, dans le fond, dans le cadre de ces 16 années d'expérience là, auprès des femmes.
Oui.
C'est très particulier parce qu'on reçoit une étude comme ça, OK? Le rapport qui a été commandé, puis là... Damn if you do, damn if you don't. C'est-à-dire que, oui, il faut parler de violence conjugale. On en parle de plus en plus parce qu'il y a tellement de féminicides, il y a tellement d'histoires d'horreur. Fait qu'on est content de cette prise de conscience-là, right? Puis là, on se dit, ben là, il faut pas épargner personne dans cette prise de conscience-là. C'est pas juste les Blancs. Faut aussi parler aux communautés culturelles. Puis il y a un enjeu de diversité. Hein. Il y a des pratiques culturelles qui sont différentes. Mais le problème, c'est que quand on en parle, le risque de récupération pour démoniser les immigrants pour dire, ah, vous voyez, ces gens-là, on les fait venir dans notre pays. Puis ces gens-là, ils partagent pas les mêmes valeurs que nous. C'est des sauvages. Ils traitent pas bien leurs femmes. Comment est-ce qu'on peut parler correctement de violence conjugale? Comment est-ce qu'on fait
sans
ça?
Sans alimenter des stéréotypes.
Ben oui. Ben c'est délicat, en effet. Puis c'est pour ça que je suis contente de pouvoir discuter avec vous de ces enjeux-là. Parce que oui, il faut le sortir. Oui, il faut faire des portraits. Il faut démontrer des choses. Il faut aller avec des statistiques. Mais il y a des corrélations qui peuvent se faire. Mais il ne faut pas non plus faire des additions faciles de dire automatiquement, ah, il y a plus d'immigrants. Il y a plus de violence conjugale. Puis il y a plus d'immigrants. Donc, ah, automatiquement, c'est juste les immigrants qui sont comme ça. Les Québécois ont des comportements violents. Les féminicides, d'ailleurs, sont souvent par des personnes blanches québécoises. On
pas... celles qui sont médiatisées, du moins, là, parce qu'il y a tous les féminicides aussi qui passent aux nouvelles. Hein. Fait que, ouais.
Exactement. Puis il y a toutes les tentatives de meurtre qui sont épargnées, qui sont jamais médiatisées. Mais il y en a beaucoup qui sont évitées de justesse aussi. Mais c'est ça. C'est pour ça que nous, on voulait venir en parler, puis je suis vraiment encore une fois contente qu'on puisse le faire parce que la récupération est facile. Puis même quand on a sorti, le portrait a été sorti un peu plus tôt cette année au sein de, là, des groupes, les TAB à Montréal-Nord.
Oui, vous avez eu des conclusions avant que ça soit rendu public dans les médias.
Puis dès le lancement, en fait, du portrait, c'est un des enjeux qu'on a ressorti puis on a nommé. Faut pas faire l'amalgame facile. Automatique parce que on le sait pas. Le portrait, il dit, il y a plus de victimes dans ce secteur-là. Ce secteur-là, il y a plus de personnes immigrantes. Est-ce que ces victimes-là étaient des personnes immigrantes? Le portrait ne le dit pas. Donc, premièrement, il y aurait une recherche à pousser, à davantage explorer pour comprendre puis savoir c'est qui ces personnes-là puis c'est qui ces agresseurs-là. Donc, moi, je veux pas qu'on rentre là-dedans. Après ça, il y a une réalité particulière à Montréal-Nord. Il y a des enjeux, il y a des difficultés vécues. Il y a de la violence, puis il y a des intersections au niveau du racisme, au niveau de la pauvreté qui stigmatisent les femmes et les résidents, en fait, les hommes aussi, dans un milieu difficile.
Ouais, donc faut pas omettre aucune complexité dans ce portrait-là. Sinon, on n'a pas un portrait qui est fidèle.
Exactement. Ce qu'on sait, c'est que depuis, bien, en tout cas, moi, depuis le début de mon travail, les réalités sont devenues de plus en plus complexes. Et à chaque année, puis je me dis, à un moment donné, on peut pas arrêter. On peut plus dire complexe parce que l'année passée, on l'a dit, puis c'est encore pire. Puis, v'là 10 ans, on le disait déjà que c'était complexe. Mais voyons, c'est donc bien plus complexe. Des situations faciles qu'on nous on appelait dans notre jargon, dire ben victime de violence conjugale, ça s'arrête là, on va travailler là-dessus. Non, il y a des complexités, il y a des intersections qui se croisent, qui rend la situation tellement complexe, tellement difficile qu'il faut s'y pencher là, mais des heures et des heures de réflexion, d'analyse, d'essayer de voir si on comprend bien sa situation. Et il y a le système d'oppression au niveau de la justice, au niveau bon, tu sais, moi je parle beaucoup du macro, mais les lois, etc. Tout ça fait en sorte que ça maintient les femmes dans les milieux de violence.
Puis juste, ouais, vas-y, Dalila.
Ah, puis justement, est-ce qu'il y a des observations que tu as pu faire dans ces 16 ans de travail, par exemple, sur la violence conjugale? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, des affaires que tu notes qui sont différentes d'avant, des nouvelles affaires qui ont émergé?
Oui. Entre autres, il y a 15 ans, les femmes avaient beaucoup plus facilement, où il y avait un automatisme au niveau de la garde, c'était les enfants allaient à la mère, garde complète, souvent le père n'était pas nécessairement impliqué ou peu. Maintenant, on voit beaucoup de gardes partagées. Ça complexifie ce que les femmes vivent parce qu'ils sont confrontés à l'agresseur une semaine sur deux, etc.
Parce qu'on veut absolument, il y a cette obsession de maintenir l'enfant dans son milieu de vie. C'est quelque chose qu'on voit aussi là avec ceux qui ont suivi un peu la commission là sur la réforme en fait de la DPJ, où est-ce qu'on entend que ben souvent on va prendre des enfants, tu sais, qui sont balancés de famille d'accueil en famille d'accueil, puis on va décider de les remettre dans le milieu même si les parents sont complètement inaptes, parce qu'on dit oh mais il faut préserver, c'est important pour le développement de l'enfant de préserver le lien familial. Puis là on se rend compte qu'on fait ça aussi dans les cas de violence conjugale, on veut pas briser le lien.
On fait énormément
avec
ça.
Le parent qui est fautif, qui s'en prend. Puis je sais pas si tu as les statistiques, mais j'avais vu ça passer. Puis c'est juste un flash que j'ai en ce moment. Fait que pardonnez-moi si j'ai pas les chiffres, mais c'est que j'avais vu que souvent dans des couples où il y a des cas de violence conjugale, l'homme va être violent à l'égard de la femme, mais pas nécessairement envers les enfants. C'est ça l'affaire, c'est que la personne qui reçoit les coups, c'est toujours la femme. Donc c'est pas parce qu'un papa a pas été violent avec ses enfants qu'il bat pas sa femme, tu sais. Puis souvent les gens, on va utiliser ça pour remettre les enfants dans leur milieu, mais ah c'est juste la femme. Mais un père violent reste un père violent. T'sais, un homme violent reste un homme violent. Là. C'est vraiment
un de nos enjeux les plus importants, parce qu'on se fait dire, ben, il a été violent avec la mère, c'est un bon père quand même. Pour nous, puis je le dis, un homme qui frappe sa femme devant son enfant, pour moi, a des problèmes au niveau de ses habiletés parentales graves. Et de dire qu'il faut maintenir le lien à tout prix, on respecte le droit de qui à ce moment-là? Du père ou de l'enfant? Est-ce qu'on a demandé à l'enfant? Mais c'est sûr qu'il y a une complexité, on ne peut pas toujours demander à l'enfant. Je sais qu'il y a les enjeux de la réforme, de la commission, excusez, Laurent, mais il y a la réforme du droit de la famille aussi, puis c'est des enjeux qu'on essaye, les groupes qui travaillent auprès des victimes de violences conjugales et de leurs enfants, c'est vraiment des enjeux qu'on veut mettre de l'avant. Parce qu'on comprend tout ça, on comprend que le père a des droits, on comprend que l'enfant, de plus jamais voir son père, et bon, c'est pas nécessairement ça qu'il faut. Mais il faut remettre les besoins de l'enfant, la sécurité de l'enfant, le développement de l'enfant au cœur de la démarche. Et on va beaucoup plus facilement, c'est ça, laisser les enfants au père sans évaluation. Même, il y a des avocats qui découragent les femmes de demander des visites supervisées ou une expertise psychosociale qui pourrait mettre en lumière les compétences parentales du père, parce que ça se peut que ça soit mal vu. Là, ils vont dire que c'est un conflit de séparation, puis là, ils vont dire que tu fais de l'aliénation parentale. Mais c'est ce que ces femmes-là vivent. Puis là, on entend, OK, il a été violent avec l'enfant quand même, mais là, de dévoiler, de dénoncer, il y a des hommes qui demandent à leurs enfants de frapper leur mère.
What?
Mais oui, ils utilisent les enfants. Tu vas violenter ta mère, tu vas la traiter comme ci, comme ça. Après ça, quand ils se séparent, ben, tu vas surveiller ta mère, puis ça fait quelque chose de pas correct, tu vas la frapper.
C'est ça, c'est de l'instrumentalisation des
complètement,
enfants.
Complètement. Oh my God. Complètement. Puis tu sais, ce que je trouve dommage dans la société aujourd'hui, c'est que là, je parle des enfants, mais de tout ce qui est violence envers les femmes. C'est que souvent on dit, tu sais, je pense dans les médias là, toute l'intimidation que vous vivez à travers les réseaux sociaux, etc. Puis ce que j'entends souvent, c'est ouais, c'est parce, tu sais, c'est 2-3 bozos. Ben tabarouette, c'est parce que c'est pas 2-3 bozos. On peut-tu arrêter de dire que c'est des gestes isolés? C'est parce que en disant que c'est des gestes isolés, ben on minimise, puis on met pas d'accent là-dessus, puis on dit pas que c'est un problème de société, mais ça en est un. Je veux dire, les maisons d'hébergement sont pleines. Il y a des femmes qui veulent quitter qui peuvent pas parce qu'il n'y a pas de place en hébergement. Puis c'est sûr que entre me retrouver dehors dans la rue avec mon enfant puis être sous le toit d'un homme violent, je vais prendre l'homme violent en attendant. Puis ça, c'est des histoires qu'on entend là. Puis c'est du réel, puis c'est pas une femme.
Ouais.
Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. À travers le Québec, les maisons de première étape sont pleines. Les deuxièmes étapes, je pourrais vous en parler un peu plus. Là, je vais trop vite.
Ouais, il faut que tu nous expliques c'est quoi ces affaires-là de une étape, deux étapes. Il y en a-tu trois? Il y en a combien?
Peut-être. Mais en fait, c'est que le gouvernement du Québec a déployé son dernier plan d'action en violence conjugale en mars 2018 et a reconnu, dans le fond, qu'on doit avoir un continuum de services pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Dans le continuum de services, dans le fond, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect, il y a la prévention, la sensibilisation qui précède, dans le fond, la prise en action de la femme pour se sortir de la violence conjugale. Et après ça, il y a des services de suivi externe avant l'hébergement. Si jamais je me questionne, je commence une nouvelle relation, je suis pas certaine de ce qui se passe, c'est-tu sain, c'est-tu pas sain. Déjà, quand je me questionne, déjà, je peux déjà me dire qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'habituellement, quand tout va bien, on se questionne pas.
Ouais.
Donc, première étape, après ça, je peux appeler, il y a des lignes d'écoute. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des suivis externes qui sont offerts dans vraiment différents organismes communautaires. Et après ça, si je décide de quitter et que j'ai besoin de sécurité, que je peux m'en aller en maison d'hébergement d'urgence, qu'on appelle au Québec, tout le monde connaît les maisons d'hébergement.
Pour les femmes battues, dans
pour
le
les femmes, ben, femmes victimes de violences conjugales.
Ouais, c'est ça, faut pas dire ça comme ça.
C'est ça, parce que c'est pas juste les femmes battues qui peuvent y aller.
Ouais. Il y a la violence financière,
n'importe quelle forme de violence. Tu y vas, tu te sens pas bien, tu veux prendre un temps de recul, tu veux analyser ta situation parce que tu penses que c'est violent ce qu'ils viennent te faire, ou tu as peur de la prochaine shot, tu peux venir, tu peux aller à la maison d'hébergement, t'appelles 24 heures sur 24, il y a une place, puis quand je dis une place, les maisons sont pleines, ça c'est un problème, mais en même temps, n'hésitez pas à quand même appeler. Si c'est pas aujourd'hui, ça pourrait être demain. Même si ça, je trouve ça horrible de dire ça. Des femmes, quand elles sont prêtes, puis c'est maintenant qu'ils devraient pouvoir
quitter. Ça peut les décourager. Ben.
Exactement. Par contre, il y a des suivis externes, puis tout ça. Puis on travaille fort avec les gouvernements pour faire reconnaître le besoin de ces nouvelles places-là.
Alors ça, c'est la deuxième étape.
Ça, c'est la première étape.
Ça fait partie de la première étape, tout ça, là?
Tout le processus. Ben, en fait, c'est les services de prévention, suivi externe. Suivi externe, tu peux le faire en maison de première étape.
D'accord.
Tu peux le faire avec des centres de femmes aussi qui offrent ça. Et après ça, dans le fond, la maison d'hébergement de première étape, à peu près un maximum de 3 mois.
Okay.
C'est vraiment milieu de vie, là. 24 heures sur 24, il y a des intervenantes. Tu manges tout le monde ensemble. Tu fais tes démarches. Tu te questionnes. Je veux-tu quitter? Je veux-tu pas quitter? Let's go.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Après ça, il y a à peu près 8 % de ces femmes-là qui vont avoir besoin d'une deuxième étape. Ça veut dire, mais là, je suis au bout de mon séjour, mais je peux pas aller nulle part. Ils m'harcèlent, j'ai peur, je sais pas quoi faire, j'ai tellement de conséquences, je suis en stress post-traumatique. Mon enfant est en stress post-traumatique. Qu'est-ce que je fais? Maison d'hébergement de deuxième étape qui sont là. Donc, c'est des logements transitoires sécuritaires. Ça dépend de chaque maison, mais c'est de 3 mois à 2 ans.
Wow!
Ce que les femmes peuvent être soutenues, travailler au niveau des mesures de sécurité à moyen long terme, parce qu'il y en a des femmes qui doivent se mettre en sécurité.
Pour tout ce que tu me dis me fait capoter en ce moment, là. Être harcelée au point de devoir trouver comme une maison banalisée, ou est-ce que tu peux être, disparaître dans la nature, en fait, en espérant que ton conjoint décroche, même si ça fait 2 ans que tu es dans cette maison-là. Puis tu sors, puis il y a peut-être pas décroché.
Il y a peut-être pas décroché. Mais il y a des femmes qui vont dans une autre deuxième étape après leur séjour. Il y a des femmes qui changent de quartier, de ville, de province. Il y en a qui changent de nom. Tu sais,
ça donne mal au cœur.
Oui, c'est en effet.
C'est atroce.
C'est pour ça qu'on fait ce travail-là, parce que il faut les aider, ces femmes-là. Mais il faut dénoncer. Il faut dire qu'il y a des hommes qui ont des comportements violents et que ça s'arrête pas après la séparation. Parce que tu sais, on dit, oh, les femmes, ben, ils ont juste à quitter. C'est donc facile. Voyons, tais-toi, va-t'en, c'est tout. Mais non. Les violences continuent. Les mécanismes de violence, les stratégies de contrôle se modifient, parce que là, j'ai plus accès à madame, à sa femme.
Ouais.
Qui je vais utiliser? Les enfants. Ça, c'est un bon moyen pour avoir les femmes. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser l'entourage.
La famille, la communauté. Famille. Puis ça, on le voit dans notamment l'aspect diversité de la chose.
Tout à fait. Ça, c'est un enjeu.
Les communautés, souvent, quand elles immigrent, je vous parlais justement là, de Montréal-Nord, où est-ce que 40% sont des immigrants de première génération, ben, elles se regroupent entre elles. T'sais, on n'aime pas ça parler de ghettoisation, mais c'est un fact, ça se passe. Les gens se retrouvent, essayent de retrouver un peu de leur communauté, de la communauté qu'ils ont laissée derrière. Donc, ils arrivent dans un nouveau pays, ils fraternisent pour que ça soit plus facile, l'intégration. Donc, ils se ramassent avec des gens de leur communauté dans des quartiers où est-ce que ils sont vraiment entourés de gens. Et là, ça peut être utilisé contre eux. La famille, la communauté, tout le monde sait ce qui se passe.
Ouais. Mais tu sais, au Québec, il y a quelques années, c'était comme ça. Hein? Mm. C'était la religion qui nous encourageait à faire ça, ou plutôt les personnes qui se disaient avoir la vérité absolue à travers la religion. Mm-hmm. Mais ça, c'est un autre sujet. On instrumentalise la religion, puis toutes les autres, pas juste la religion catholique, mais toutes les autres sont utilisées juste pour ça. Mais en même temps, tu sais, quand t'es tout seul puis que tu vis quelque chose, c'est quoi que tu fais? T'as besoin d'un réseau. Tout être humain a besoin de son réseau. C'est le tissu social qu'on doit recréer. Puis c'est pour ça qu'à Montréal-Nord, on travaille beaucoup à se créer ce tissu social-là pour pas qu'on s'isole à travers juste peut-être nos communautés ou notre famille qui est pas nécessairement apte à nous aider de la bonne manière. Mm-hmm. Puis c'est ça aussi, tu sais, les groupes pour femmes, les organismes qui aident les victimes sont là aussi pour aider à des fois à recréer aussi, parce que des fois, tu as perdu complètement contact avec ta famille parce qu'il le conjoint, un des moyens pour violenter, c'est d'isoler la victime. Donc c'est ça. Fait que nous, on aide à recréer, mais on aide aussi à essayer de dire, ben, tu sais, ce que ta famille te dit, les autres, c'est ce qu'ils pensent qui est le meilleur pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu veux, tu sais? C'est quoi qui est le plus important? Ah, ben, pour moi, c'est ma sécurité, puis, tu sais, ma liberté. OK, on va prendre d'autres choses. Mais oui, puis c'est à travers, même si des femmes qui n'ont pas de réseau ici, ils vont appeler dans leur pays, ils vont dire, ben là, non, tu peux pas faire ça, tu sais, enlève ta plainte, etc.
Ouais.
C'est sûr que c'est une réalité, puis c'est complexe, mais en même temps, c'est des femmes qui veulent s'en sortir. Ils arrivent ici, puis ils font comme, ah, je peux être libre. Des femmes disent, mais avoir su, avoir ce choix-là, j'aurais jamais fait marier cet homme-là. Ah, vous avez plein de droits ici, c'est cool. Oh, yes, je vais m'en sortir maintenant, tu sais.
Ah ouais? Tu penses qu'elles font les démarches, mais tu le constates, en fait? Oui,
complètement.
Dans le cadre de ton travail.
Complètement. Puis là, ils font comme, ah, mais si on a le droit, pourquoi vivre la violence?
Ah ouais.
Pourquoi je vivrais de la violence? C'est juste parce que j'avais pas d'autre choix. Puis il y a des femmes, tu sais, il y a tellement de réalités différentes. Là. Moi, faut vous m'arrêter parce que je peux partir longtemps, mais il y a des femmes qui, dans leur pays, c'est pas nécessairement dans une relation de violence qu'elles étaient. Mais arriver ici, ce conjoint-là, parce que, tu sais, la violence, c'est un choix. Fait qu'il arrive ici, sans insécurité, il fait comme, tiens, je vais me défouler sur, tu sais, toutes mes insécurités, tout ce que je vis, parce que, bon, il vit, ben, tu sais, je me défoule, j'ai perdu le contrôle dans ma vie, ben, tu sais, je vais le prendre dans ma vie personnelle, puis sur ma femme. C'est ça qui se passe, tu sais. Fait que, il y a des femmes qui font comme, ben non, mais dans mon pays, il était pas comme ça, ou, tu sais, je comprends pas, je suis arrivée ici, moi, je pensais vraiment, là, que c'était American Dream.
Oui, c'est ça. Hein?
Parce que ça, c'est encore la réalité. Ben, dans leur pays, ils disent, ben oui, mais moi, mon père était pas comme ça. Je comprends pas pourquoi il est comme ça.
Oui, parce qu'on entretient beaucoup le mythe que certaines communautés, hein, par exemple, les Arabes, le père, c'est normal, c'est juste normal, la violence à l'égard des femmes, hein, parce qu'on prend quelques actes isolés faits par des terroristes, des gens qui appliquent une espèce de loi islamique vraiment que, tu sais, les cas les plus extrêmes, là, tu sais. Puis on se dit, ah, mais c'est la norme là-bas, le père a le droit de vie ou de mort sur la vie de sa fille, tu sais, le père, il donne sa fille ensuite au mariage à son conjoint. Si c'est pas le conjoint, ça va être les frères qui vont contrôler ces femmes-là. T'sais. On entretient beaucoup ce mythe-là que certaines communautés sont très, très patriarcales, comme si nous, on l'était pas du tout, soit dit en passant. Puis que les femmes, c'est vraiment genre... C'est normal. T'sais, ils arrivent ici, fait que c'est sûr qu'ils importent avec eux. Leurs coutumes les suivent quand ils arrivent ici. Mais c'est pas vrai. Ça reste encore des préjugés qu'on a à l'égard des communautés parce qu'on prend des cas extrêmes d'un fin fond de village dans le nord de l'Afghanistan où est-ce qu'on on applique la loi coranique?
Ben, moi, je te dirais juste que par rapport à ça, puis tu sais, peut-être que Dalila pourrait Dalila dire quelque chose sur ça. Mais
trempée ou dégoûtée, je sais pas.
Mais des femmes qui vivent ça, on en a. Ça, c'est clair.
Oui, bien sûr.
On en a. Puis moi, ce que je dirais, puis ce que j'ai remarqué, en tout cas depuis quelques années, c'est qu'il y a quand même une recrudescence dans les pays arabes de l'extrémiste. Tu sais, ils ont pris le contrôle. Puis il y a des personnes qui, ben tu sais, dans mon enfance, c'était pas comme ça. Mais maintenant, avec la loi puis ce qu'on se fait imposer, c'est l'intégrisme religieux.
D'instabilité politique.
Exactement. Dans fait que ça, les femmes sont tellement victimes de tout ça.
Mais oui, c'est toujours les premières victimes.
C'est tout le temps les premières victimes. Fait que de plus en plus, moi, je vois ces femmes-là. Par contre, ils font comme, oui, dans ma vie là-bas, j'avais pas d'autre choix. Mais quand j'en ai un autre choix, je le fais, par exemple. C'est ce qui est beau. pour moi en tout cas, de voir ces filles-là qui fait comme « Yeah! » Il y a de la liberté existe, puis c'est pas... Pourquoi les immigrants viennent ici? Les personnes, ils émigrent pour avoir la liberté, puis plus de pouvoir rêver, etc. Ils sont pas là pour dire « On va aller porter... »
Mais aussi, c'est des fois parce qu'ils fuient des situations qui, initialement, étaient difficiles puis invivables, puis ils fuient alors qu'ils n'ont pas envie de fuir.
Ça, c'est clair.
Il y a une quête de liberté, mais aussi, il y a aussi une quête de sécurité.
Oui, exactement. Ils n'ont pas le choix. Fait qu'ils sont, ils arrivent ici, c'est tellement difficile. On les a, ces personnes-là, mais en plus, ça pour moi, c'est une autre intersection des femmes immigrantes ou des personnes immigrantes, parce qu'en plus de l'immigration, il y a tout le bagage de la guerre, etc., qui lui ramène. Sont traumatisés. Il y a des stress post-traumatiques. Il y a tout ça, là, de dire, hey, moi, j'avais plus le droit d'être, j'avais plus le droit d'exister là-bas. Là. En tant que femme, je ne pouvais pas faire ça. Je suis comme. Puis là, elle me dit, ah, mais toi, t'as le droit? Waouh! Puis là, je suis comme, mais tu sais, pour nous, c'est normal. Mais on travaille avec elle, mais c'est de voir ces femmes-là faire comme, la journée que j'ai su que j'avais le droit, je suis partie.
Ouais.
C'est ça que j'entends. La journée que j'ai le droit, puis que vous me confirmez que j'ai le droit, puis que vous confirmez que vous allez m'aider, je vais partir.
Wow.
Ça, c'est beau. Parce que les femmes québécoises, il y en a encore, malheureusement, qui sont tellement isolées, puis se font tellement faire de la violence psychologique, qui finissent par croire, même s'ils savent, oh, ouais,
même si elles sont nées ici, puis qu'elles sont familières avec les valeurs.
Exactement. Puis ça, comme tu dis, au niveau des valeurs québécoises, c'est parce que, tu sais, on fait semblant un peu les privilégiés, les blancs, là, c'est comme non, mais eux autres sont violents. Mais tu sais, je pense à toute la violence faite aux femmes dans différents pays, tu sais, la traite des femmes, l'esclavage domestique, etc. La prostitution. Je m'excuse, mais c'est qui les clients, tu sais? C'est les blancs-becs, tu sais. Excusez le terme.
Non,
mais non, mais c'est ça. Fait que tu sais, nous autres, on fait juste à semblant de bien paraître, tu sais. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, puis tu sais, on peut tout ça regarder. Je veux dire, s'il y a autant de traite, c'est parce qu'il y a autant de clients qui en veulent.
Ouais. Puis on parlait des chiffres, tu sais, bon là, évidemment, on parlait de Montréal-Nord, mais c'est pas le Montréal-Nord qui a le monopole de la violence conjugale dans la province au Québec, là, tu sais.
Exactement, mais c'est ce qui est intéressant de constater.
Oui, parce que là, c'est un rapport qui se concentre sur Montréal-Nord. Pourquoi? Parce qu'on veut parler du manque de ressources,
oui,
notamment pour venir en
Europe.
Et c'est ça l'élément central.
Ouais.
Mais pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent en ce moment, sachez que c'est ailleurs au Québec qu'on retrouve beaucoup de violences conjugales. Et c'est pas nécessairement dans les grands centres urbains, hein. C'est pas dans les milieux auxquels vous pensez nécessairement. Et là, je sais que Ariane, elle fouille dans ses notes en ce moment parce qu'elle essaie de les retrouver. C'est fun d'avoir des intervenants. Ils arrivent comme ça, très, très préparés, très documentés.
Je veux pas me tromper de région, tu sais. Ça serait plate pour eux autres. S'ils gagnent la palme d'or, de manquer leur chat, de dire non, c'est nous autres, t'as pas bien dit. Puis là, le pire, c'est que je ne trouve pas parce que, évidemment, là, je suis comme, il y a trop de papiers, puis là, je suis comme, j'essaie de parler rapidement.
Mais il y a la Côte-Nord.
Mais il y a la Côte-Nord, entre autres. Si je me trompe pas, il y a l'Abitibi aussi. Donc, ça, c'est sûr que c'est des quartiers qui trônent au sommet de l'ampleur de la violence conjugale au Québec. Puis c'est là où ce que je me dis, ça peut, tu sais, on dit bien Montréal-Nord, sauf que comment on explique que, tu sais, Côte-Nord puis Abitibi, ben, c'est pas là qu'il y a le plus d'immigrants, là, de personnes arabes, de personnes noires, nanana.
C'est pas culturel, la violence conjugale.
Et non, malheureusement, c'est probablement une des choses que toutes les femmes, peu importe leurs origines, vivent, ont le plus en commun. La violence du patriarcat, la violence de la misogynie, c'est incroyable.
C'est universel, ouais, c'est merveilleux.
C'est
universel, hein?
Tellement bien dit, Dalila, pour
c'est
vrai.
C'est dégueulasse,
vraiment.
On est fâchés, on est vraiment fâchés.
Aujourd'hui, je suis particulièrement fâchée.
Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, le monde, oh mon Dieu, faut pas dire le mot féministe. Mais comment, après entendre ces chiffres-là, pas entendre toutes ces histoires-là, comment ne pas être féministe?
Ben, oui.
Comment ne pas être contre la violence faite aux femmes?
Absolument. Voyons donc. Moi, je le porte comme un badge, mon féminisme.
Exactement.
Et tu parlais des intersections, puis je veux y revenir parce que je trouve ça quand même intéressant. T'as parlé, entre autres, tu sais, c'est ça, du bagage de la guerre, des traumatismes du passé qu'on laisse derrière, de l'endroit d'où on vient. Quelle autre intersection que toi, t'as pu voir dans le cadre de ton travail? Parce que tu disais que tu le constates là, sur le terrain, à Montréal-Nord, entre autres. Là, je reviens comme sur l'île, dans la métropole.
Mais le classisme qui est les classes sociales. Si on parle de pauvreté, il y a énormément de pauvreté à Montréal-Nord, ça c'est un fait.
Mais est-ce que la pauvreté, c'est ça qui cause la violence conjugale? Parce qu'on fait souvent ces rapprochements-là, c'est
tellement.
Ce qu'on entend. T'sais. C'est comme, ah oui, mais tu sais, la violence conjugale dans les milieux pauvres. Puis on sait que Montréal-Nord, c'est un quartier en raison, entre autres, ben, toutes sortes de raisons, mais aussi le profil sociodémographique des personnes, notamment des nouveaux arrivants. C'est pas les plus riches sur la planète, hein. On s'entend quand t'arrives dans un nouveau pays, là. Fait que oui, il y a beaucoup de pauvreté dans Montréal-Nord. Et je pense qu'au Canada, c'est un des quartiers les plus pauvres, en fait, là, sur l'ensemble national, du point de vue national, là. Donc, est-ce qu'on peut faire une association, là, ou?
Ben en fait, ça serait facile de dire ça. Puis tu sais, moi je pense à toutes les justifications des hommes qui ont des comportements violents. Hein. Ah, c'est la religion qui fait que je te frappe. C'est la pauvreté. Je suis stressée, tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent, fait que je vais te violenter. Je vais prendre contrôle sur toi. Ça, c'est des outils pour justifier la violence. Il faut faire attention de pas donner cette voix-là à ces hommes-là, parce qu'après ça, ils vont dire, ben tu vois, j'irai, tu sais, c'est pour ça.
C'est pas de ma faute.
T'sais. C'est parce qu'on est stressé, parce que j'ai pas d'emploi. Ok. La pauvreté est une conséquence de la violence. Quand je vis de la violence conjugale, automatiquement, je vais m'appauvrir. OK? Parce que je vais soit manquer plus souvent de travail, je vais devoir peut-être quitter le travail, je vais devoir changer de travail, ou je ne vais pas pouvoir travailler. Je vais être sous l'emprise économique. Donc, et ou bien il y a des...
Ce que je reçois, je dois le confier à mon conjoint.
Exactement. Tu sais, les moyens de vivre la violence économique, c'est un enjeu. C'est là, tu sais, je me souviens des femmes me disent, ben ils me donnaient 20$ pour faire l'épicerie, tu sais, avec des enfants, comment tu fais pour arriver, tu sais, je me souviens d'une femme, elle me dit, je mangeais les miettes à terre de ce que mon enfant finissait pas pour survivre. Puis je me souviens, puis là je parle de mon histoire, mais j'ai travaillé en première étape, mais je me souviens d'avoir ouvert le frigidaire avec une femme la nuit parce que je serais une nuit, puis elle a ouvert, puis elle a pleuré parce qu'elle a vu de la nourriture. C'est ça, tu sais, la violence. C'est ça, le contrôle coercitif des hommes ayant des comportements violents, excusez.
Bien sûr, pas tous les hommes,
pas
on
tous
le
les
rappelle.
Hommes.
Hashtag,
on le sait, vous êtes des bons gars, on le sait, on vous
on
aime.
On a des alliés
oui,
importants.
Oui.
Mais pour ces hommes-là, parce que c'est sûr que quand tu travailles juste en violence conjugale, ben quand tu parles de ces hommes-là, ben c'est ces hommes. Après ça, la pauvreté. Je vis la violence conjugale, je m'appauvris. Quand je veux sortir de la violence conjugale, c'est difficile si je sais pas si je vais me trouver un toit. C'est sûr que je vais rester. Si j'ai des enfants, je vais pas me retrouver dans la rue. Fait que je vais rester. Il y a des femmes qui disent, ben j'attendais une place en maison d'hébergement, je restais. Je me souviens d'une femme, elle dit, je suis partie en première étape, j'avais pas d'autre opportunité, je m'aurais retrouvée dans la rue. J'avais pas de deuxième étape de disponible pour moi, puis avec le profil que elle aurait pu postuler. Elle retournait avec le conjoint. Parce qu'il y avait pas de deuxième étape, pas parce qu'elle voulait retourner avec, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle sentait qu'elle pouvait pas, parce que dans la rue, je me fais retirer mon enfant. Donc, elle retournait jusqu'à temps qu'il y ait une deuxième étape, etc. Après ça, la pauvreté, c'est sûr que quand je suis dans un milieu pauvre, un milieu violent, tu sais, je dis, bon, rien, ça peut être, c'est rough. C'est sûr que ça peut, c'est ça, ça m'aide pas. Donc, c'est pas parce que lui, il est pauvre puis qu'il est stressé qu'il va me violenter, mais parce que je suis pauvre que ça se peut que je reste dans mon milieu violent parce que j'ai pas d'autres ressources. Pourquoi on a plus de femmes immigrantes dans nos ressources? Parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources.
Spécifiquement pour elles? Ben, qu'est-ce que tu veux
non,
dire?
Non, ce que je veux dire, c'est que si j'ai des sous, là, moi, j'ai travaillé même dans une maison où il y avait des femmes plus aisées. Puis j'étais comme, ah, OK, il y a quand même des femmes plus aisées.
Des femmes riches qui se font violenter, qui se font
battre. Ben oui, imagine-toi donc. Moi, j'arrivais, puis hop! Oh, une voiture de riche.
Je pensais que c'était juste une affaire de BS.
Ben, c'est ça. Oh. Moi aussi, ça m'a comme surpris, tu sais, travailler à Montréal. Non, je fais comme, ah, j'étais habituée à ça. Non. Mais, puis même elle, ça appauvrissait. Bon. Mais c'est ça. Mais sauf que quand j'ai pas une scène pour manger, c'est différent que quand je dois prendre un congé maladie de mon travail puis que j'ai quand même des sous de côté. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai des enfants. J'ai peut-être un statut immigratoire précaire. Qu'est-ce que je fais? Puis lui, il me dit, mais c'est parce que si tu t'en vas, là, je t'enlève ton parrainage. Ben, je m'en vais pas.
Aïe, aïe, ouais.
Tu sais, puis j'endure parce que c'est que moi, c'était la guerre chez nous. Fait que
je veux pas y retourner.
Je veux pas y retourner. Fait que c'est pas si pire, tu sais. C'est pas si pire. Là, en attendant, je vais toffer, tu sais.
Ouais, un point sur la gueule, c'est pas si pire,
t'sais. Ben, comparé à ce que je peux avoir vécu ailleurs, tu sais. Fait que, tu sais, il y a aussi ça, là, tu sais. C'est sûr aussi, quand je vis dans un milieu rough, tout est rough alentour de moi. Ben, ce que je vis à l'extérieur ou à l'intérieur, ça se ressemble. Tu sais.
Et puis c'est le moindre mal, dans le fond.
C'est le moindre mal.
Aïe, aïe. Ça me jette à terre.
Mais ce que je trouve vraiment triste que j'ai observé depuis quelques années, parce que j'interviens auprès des femmes à statut précaire, puis je trouve que le processus migratoire est une violence de plus que ces femmes-là vivent. Puis je les vois passer à travers ça, puis ça me scie les jambes en deux. Tu sais, tu le sais pas, si tu vas retourner dans ton pays, puis ça se peut que tu te fasses tuer là-bas. Puis là, je te demande d'attendre un an, deux ans, sans savoir ça. Sans savoir à chaque fois. Puis là, je te dis, ben essaie de te reconstruire. Ben là, prends soin de toi. Ben là, vis plus d'anxiété. Tu sais, installe-toi, intègre-toi, travaille là-dessus. Mais tu sais jamais quand est-ce.
Ta demande est en attente.
Ton demande est en attente. Il y a comme un épée de Damoclès. Puis c'est ça, il y a une femme qui nous a vraiment touchés dernièrement qui a dit, c'est une des formes de violence les plus atroces que j'ai vécues, tu sais. Mm. Puis ça nous a fait comme, aïe, puisque elle, en plus de vivre de la violence conjugale, il y a ça, il y a tout ce parcours-là. Puis tu sais, une fille, elle dit, ouais, mais comment, je sais qu'il faut que je fasse cette démarche-là, mais ça me fait mal de penser que ça se peut que je me fasse tuer en, si je ne suis pas acceptée ici.
Ouais.
En même temps, il faut que je fasse toute ma démarche d'immigration, mais ça me stresse. Puis là, je stresse post-traumatique en barque, je suis plus capable de me concentrer. Mais il faut que je le fasse, parce qu'il faut pas que je fasse d'erreur. Hein. Faudrait pas que je dise une erreur. Faudrait pas que je sois pas convaincante puis super...
lors des audiences, puis tout ça.
Ouais, ouais, exactement. Fait que ça, je trouve que c'est un enjeu qu'on voit de plus en plus pour ces femmes-là, qui est très difficile. On entend même, je pense que vous avez entendu parler de Madame M en prison, à la prison Leclerc.
Peux-tu nous le rappeler?
Oui. C'est une femme qui a vécu la violence conjugale, qui s'est séparée et le conjoint avait les enfants aux États-Unis. Et les enfants ont appelé maman pour dire « Viens nous chercher, on n'est plus capable. » Elle est allée les chercher. Ben, elle s'est faite accuser d'enlèvement international. Elle était en processus de par rapport à la plainte criminelle puis tout ça, d'extradition, etc., pendant des années. Puis finalement, ils l'ont mis à la prison de Leclerc, qui est la prison pour femmes.
Elle a été emprisonnée.
Puis, ouais, exactement. Puis elle s'en allait, dans le fond, se faire extrader pour un 15 ans, possiblement, en prison aux États-Unis. Elle s'est suicidée dernièrement.
Ah, barnouche. OK. J'ai pas vu du tout passer cette histoire-là. Je sais pas si c'est moi qui n'étais pas à l'affût de l'actualité à ce moment-là, mais ça devrait faire les manchettes. Ça devrait ouvrir tous les bulletins de nouvelles.
Oui, mais c'est ça,
mon billet, il paraît, mais genre, pour vrai, ça me jette à terre.
Mais c'est ça, puis tu sais, ce que je trouvais horrible là-dedans, c'est ça, c'est pour ça, nos groupes, les groupes de femmes, il y en a plusieurs qui ont travaillé pour la soutenir, puis elle puis ses enfants. Mais ce que je trouve horrible, c'est que là, tu sais, on en a parlé un petit peu dans les médias, il y a des choses qui s'en viennent quand même, parce que les groupes pour femmes ne veulent pas laisser ça passer non plus. Parce que on n'a pas entendu les enfants dire, ben moi, mais on a demandé à notre mère de venir nous sauver, puis là, vous la mettez en prison, tu sais, ça n'a aucun sens. Au nom de la loi, mais on peut-tu ôter toutes les barrières au niveau de la justice pour écouter les femmes et les enfants? Peu importe les corrélations, peu importe les statistiques, ce qui ressort, c'est qu'il manque de ressources, il faut injecter, il faut prévenir la violence dans les relations amoureuses. Les groupes pour femmes le disent depuis des années. La solution, c'est qu'il faut partir de l'enfance, il faut changer la vision qu'on a des relations hommes-femmes, de l'égalité hommes-femmes. On peut-tu faire une égalité de fait? L'égalité de fait est atteinte. Hein? C'est vrai, hein, on a tous les mêmes droits. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Mm-hmm. On peut-tu donner ça à nos enfants? Donc, on veut avoir plus de fonds, évidemment. Il y a des choses qui s'en viennent à Montréal-Nord. C'est ça qui est beau dans ce mouvement-là. Puis j'appelle ça un mouvement parce que, pour la première fois, dans le fond, tout le monde s'assemble. Tout le monde dit, on met la priorité violence conjugale. C'est dans nos plans d'action, dans nos priorités d'action, et on va trouver des solutions viables. On veut aussi que ça fasse la différence dans la vie concrète des femmes, pas juste, tu sais, parce que des fois, on dit, oh, on va parler des tables de concertation, on se concerte, mais quand est-ce que ça descend directement auprès des femmes? Il y a des choses qui s'en viennent que je peux pas parler officiellement, mais quand même du beau.
Mais c'est un dossier qu'on va continuer à surveiller, effectivement. Ben oui.
Exactement. T'sais, fait que c'est pour ça qu'on est content d'avoir eu cette tribune-là, puis de un peu choquer en disant le portrait inquiétant de Montréal-Nord, mais ça peut nous donner cette opportunité-là d'aller chercher des fonds, d'aller chercher des ressources, mais aussi de dénoncer ce qui se passe, entre autres à Montréal-Nord, mais partout. Mais tu sais, les femmes à Montréal-Nord, quand elles veulent quitter, là, c'est compliqué à la maison d'hébergement, c'est loin. Puis là, dire, ben là, faut que j'aille à cours, ben là, ça me prend une heure et demie, etc., etc. Mais ça décourage. Puis là, je vais aller en maison d'hébergement, mais là, c'est vraiment pas proche de chez vous. Bon, on veut pas non plus que ça soit collé à côté de ta maison. On s'entend. Mais il y en a pas proche dans ce secteur-là.
Donc, c'est un dépaysement, c'est un choc de plus à gérer si t'arrives à faire le move.
Exactement. Puis il y a des femmes qui vont se décourager. C'est trop loin, je connais pas. Si ça serait un peu plus près, peut-être qu'elle irait. Puis déjà, il faudrait qu'il y ait de la place. Mais ça aussi, c'est un entre-enjeu. Donc, c'est sûr que si tout le monde nous entend et les gouvernements, etc., on va continuer à faire des pressions. Mais ce qui est le fun avec la table de concertation, c'est qu'on va finir. Tu sais, le portrait a été fait. Nous, on va aller plus loin dans le portrait par rapport aux services qu'il y a pour aller vraiment cibler des manques plus importants puis aller peut-être faire des revendications, etc., plus précises à ce niveau-là.
Ouais.
Mais clairement, plus on va sensibiliser, plus on va dire aux femmes, il y a des moyens de s'en sortir, plus elles vont s'en sortir. Parce que les femmes, c'est des courageuses, des résilientes.
Yaz! Yaz, queen! Ariane Hopkins, ben merci encore une fois d'avoir été avec nous. C'était vraiment très, très apprécié, puis c'était très éclairant. Évidemment, on a bien hâte d'entendre, de voir ce qui va sortir là, de ces grands chantiers en préparation dans Montréal-Nord dont tu nous parles, sur lesquels tu peux pas nous dire grand-chose, mais qui semblent avoir ton enthousiasme très, très prometteur. Donc, une discussion qui fait mal un peu à avoir. C'est pas plaisant de parler de ce sujet-là, mais j'espère vivre dans un monde où un jour, où on n'aura pas besoin d'en parler. Pour l'instant, on va continuer de manifester notre soutien aux femmes qui vivent de la violence. On le rappelle, il y a des ressources, et d'ailleurs dans la partage Facebook de l'émission d'aujourd'hui, on va mettre ces ressources-là, que vous soyez racisés ou non, hein, donc c'est pour tout le monde, donc de savoir que vous n'êtes pas seul et que la violence, c'est pas justement seulement un coup de poing sur la gueule, ça peut être tellement, tellement plus de choses. Donc si mesdames ou messieurs, parce que oui, ça arrive aussi, vous vous posez des questions, c'est le temps d'appeler. Voilà.
Merci.
Le chouchou de la semaine. On va passer au chouchou de la semaine parce que vous le savez, à chaque semaine, on vous présente là, un objet culturel ou quelque chose, une tendance qui retient notre attention sur les réseaux sociaux. Et moi, là, cette semaine, j'ai retenu quelque chose. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec mon choix, mais j'y vais pareil. Je vous parle de Disney. Disney qui a fait des trucs extraordinaires. Là. Vous savez, bon, ils ont lancé leur gros service Disney+, là où est-ce qu'on retrouve des petits bonhommes, Marvel, National Geographic. Et on puise aussi dans une grande sélection d'archives de Disney. Il faut savoir que Disney, l'entreprise, ça n'a pas toujours été très, très jojo. Monsieur Disney lui-même était connu pour ses drôles de positions en matière d'immigration, notamment à l'égard des Juifs. Et il y a certains ouvrages, certains courts-métrages qui ont été faits à une certaine époque qui reflètent bien des discriminations qu'on connaissait dans les années 50-60, notamment à l'égard des Noirs, des Autochtones, des Juifs, encore une fois, des Asiatiques aussi. Beaucoup de préjugés. Et ce que Disney a fait, Disney a décidé de ne pas censurer ces œuvres-là. Ces œuvres-là sont publiques, sont disponibles sur Disney+. Par contre, il y a un avertissement avant les œuvres pour nous aviser que ce qu'on voit présentement sur l'écran, ben ça reflète une pensée qui était propre à l'époque, qui ne reflète en rien les pensées actuelles. Donc je trouve que c'est formidable. C'est pas grand-chose, OK, ça efface pas là, le mal qui a été fait par le passé, mais c'est une façon de reconnaître qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient inacceptables et sans vouloir les cacher ou les euphémiser, tu sais, les atténuer, on dit regardez, on assume ça, c'est le passé, puis on en profite pour faire une leçon d'éducation. Donc ça, je trouve ça très, 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 très cool. Et Disney, deux fois plutôt qu'une, cité dans le chouchou de la semaine, parce qu'ils ont fait aussi, je sais pas si vous avez entendu parler d'un film un peu vague, un peu obscur, La Reine des Neiges. Donc, La Reine des Neiges 2.
Libérée.
Plus capable. J'ai pas d'enfant, puis je peux pas entendre cette chanson-là. J'ai peut-être entendu deux fois seulement dans ma vie. Donc, solidarité envers tous les parents là, qui nous
Merci.
Écoutent, qui l'ont entendu.
c'est Baby Shark qui a pris la relève.
Ah, c'est ça. Qui l'ont entendu comme 50 fois dans les deux dernières semaines. Moi, j'ai entendu deux fois puis j'étais déjà plus capable. Donc, chapeau, je sais pas comment vous faites. La Reine des Neiges 2, qui est sortie en cinéma, qui s'inspire de certaines légendes de communautés autochtones de la Scandinavie, de la région du Caucase aussi. Et on avait eu beaucoup de critiques. Moi, je les avais pas vues, soit dit en passant, mais il y avait eu beaucoup de critiques là, sur La Reine des Neiges 2 parce qu'on disait qu'on s'appropriait les histoires des communautés autochtones sans vraiment bien les inclure dans la discussion. Eh bien, Disney a mis sur place des comités. Mmh. Fait que des comités, pour éviter les accusations d'appropriation culturelle, évidemment, ils ont fait appel à des personnes qui représentaient la communauté autochtone Sami du nord de la Scandinavie dans la préparation du film La Reine des Neiges 2. Ils ont imaginé avec eux un des peuples qui sont présents dans l'histoire. Puis ils se sont vraiment entendus avec le Conseil Sami, les parlements des Samis en Norvège, en Suède et en Finlande. Vraiment des comités consultatifs pour les guider dans leur représentation adéquate de ces peuples-là à l'écran, même si c'est fictif. Hein, La Reine des Neiges, c'est pas vrai, là.
Ah non?
Non, c'est juste une histoire, Dalila. Ouais. Puis, c'est juste une histoire, mais on prend des inspirations et on aurait aurait pu prendre des inspirations sans donner le crédit à qui que ce soit, mais mm-hmm. Disney a appris des critiques précédentes, a appris de ses erreurs, comme quoi c'est possible de collaborer tous ensemble et d'obtenir un résultat qui fait plaisir à tout le monde. Pas juste de dire « Ah ouais, mais j'ai appelé des communautés culturelles, puis là, ils n'étaient pas d'accord avec mes idées, fait que j'ai décidé de les flusher parce que moi, j'ai une liberté artistique là-dedans. » Non, non, Disney a réussi à arriver dans un consensus. Et ça, je trouve ça très, très inspirant. Et je pense que c'est un modèle à suivre pour les créations culturelles à venir. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre épisode de cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve la semaine prochaine, hein, Dalila?
Merci, Vanessa.
Un peu plus en forme quand même?
Ah oui.
On va essayer.
Supposé, parce que le temps des fêtes approche, on va essayer de se reposer.
Ah là, faut pas qu'on slack, là. Faut pas qu'on soit vête juste parce que c'est Noël. Là. On va continuer là d'être le number one. Là, hein? Ouais. C'est pas très convaincant tout ça. On travaille là-dessus et on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné. Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.